entre les pages. Courriel au mois de janvier dernier, celui d'Alexandre Seurat qui me faisait part de son enthousiasme pour le dernier roman de Marius Daniel Popescu, auteur roumain, j'allais dire auteur suisse et roumain. J'ai donc entrepris la lecture de ce roman très troublant et je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas inviter son auteur, profitant de sa venue à Angers. Cette simple recommandation illustre bien ce que peut être cette émission. Un réseau que j'ai appelé réseau de fidélité. Depuis 7 ans, les échanges, les conversations ont lieu bien au-delà des micros de Radio G. On se recommande des lectures, s'informe sur des événements, et cela aboutit, comme aujourd'hui, à une programmation, parce que c'est toujours agréable de partager ses enthousiasmes. Mais maintenant, place aux invités. Bonjour. Marius Daniel Popescu.
Bonjour, merci beaucoup.
Bonjour Alexandre Seurat.
Bonjour Luc.
Marius Daniel Popescu, Le cri du barbeau vient de paraître aux éditions Corti, votre 3e roman, 14 ans après La couleur de l'hirondelle. Mais avant de vous interroger, je vais demander à Alexandre Seurat de le présenter.
Alors, le cri du barbeau, c'est un livre magnifique que j'ai découvert à l'automne. Moi, je connaissais l'œuvre de Marius parce que je le lis depuis l'apparition de son premier texte publié chez Corti, son premier roman qui s'appelle La Symphonie du Loup, qui est pas son premier livre publié. Et je guettais l'apparition d'un de ses textes parce que ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu de parution chez Corti de sa part. Et donc, j'étais à Paris, je l'ai pris sur un étal de libraire. Et je l'ai acheté et j'ai été immédiatement embarqué dans ce que j'avais vraiment absolument aimé dans La Symphonie du Loup, c'est-à-dire un maelstrom de sensations, de souvenirs, parce que c'est une écriture extrêmement sensorielle qui nous bascule dans la vie de Marius. En fait, on sent tout de suite qu'on est immergé dans une perception du monde qui à la fois décrit le quotidien d'un homme qui commence par vivre un deuil. Le livre s'ouvre là-dessus et ce deuil nous bascule tout de suite dans la singularité de l'écriture de Marius, puisque c'est un deuil d'un ami d'enfance qui a lieu dans le pays de là-bas. Le livre ne le dit pas, mais c'est la Roumanie dont est issu Marius Daniel Popescu, alors que le personnage principal, il vit dans le pays d'ici, qui est la Suisse romande. Et donc, il retourne dans le pays de là-bas pour enterrer son ami d'enfance et recevoir tous les témoignages autour des circonstances dans lesquelles sa mort a eu lieu. Et à partir de là, en fait, le texte va développer toute une série d'impressions qui ne sont pas toutes reliées à ce deuil initial, mais à son expérience de vie, aux souvenirs qu'il peut avoir de la Roumanie communiste, le règne du parti unique, comme il l'écrit, et puis son expérience quotidienne de colleur d'affiche. En réalité, Marius est chauffeur de bus. Donc il y a une part de transposition, mais ce qui est fou dans son écriture, c'est la sensation du réel et la capacité à épouser le flux des sensations et des souvenirs. C'est pas du tout un récit linéaire, c'est un récit très fragmenté. Mais moi, ça m'a tout de suite embarqué depuis le premier livre, et donc je suis vraiment très heureux de pouvoir partager cet enthousiasme ici. Voilà, en Anjou.
Ces quelques mots, ils montrent bien la particularité de l'écriture de Marius Daniel Popescu. Il a fallu tout ce temps pour écrire ce 3e roman, ou bien il correspond à une urgence, une nécessité?
Non, pas du tout. J'ai pris 13 ans pour revenir avec le 3e livre chez José Corti. parce que j'ai un travail alimentaire, on peut dire chauffeur de bus, que j'aime bien, qui m'inspire aussi. En même temps, il y a eu plein de choses dans ma vie privée, donc un divorce, garde partagée, m'occuper de ma fille. Et en même temps, j'écrivais chaque jour. Moi, j'écris toujours par ma relation avec les gens, par ma relation avec le monde. Je prends beaucoup de notes. Et d'une certaine manière, je suis très heureux par mon écriture de la vie, en étant dans la vie avec les autres. Et le travail d'écriture pour faire un livre, c'est moins important que de vivre avec les autres. Je suis poète et écrivain dans la vie beaucoup plus que je le suis avec les bouquins. Et bien sûr, j'ai pas lâché, j'ai continué. Et j'ai dû discuter aussi avec mon éditeur, monsieur Bertrand Fiodo, et j'ai dû changer quelques passages, quelque chose, j'ai profité de ses conseils, et me voilà, toujours s'écourti avec le cri du barbeau. Maintenant, je suis très heureux d'être avec vous. Merci beaucoup Alexandre Sera pour son attention envers les autres écrivains, parce qu'il est un très bon écrivain. Je lui remercie pour l'invitation. À la fois à Angers, on a eu plusieurs conférences avec des étudiants, on a été à Lerio, une très belle librairie hier soir, et maintenant je vous remercie à vous deux de m'avoir reçu chez vous.
Bah, c'est le but de l'émission, hein, c'est de s'intéresser au monde de la littérature. Alors, littérature en Anjou, et comme l'Anjou est un territoire qui est assez ambitieux, il est capable de coloniser et la Suisse et la Roumanie, sans aucune difficulté. Et de faire exactement...
C'est déjà fait hein, dans l'histoire.
Oui, oui, mais ce que vous faites, exactement ce que vous faites dans votre roman, c'est-à-dire avoir une vision globale, en fait, de la géographie. Moi, je parlais d'urgence, enfin, je m'interrogeais sur qu'est-ce qui peut faire nécessité dans l'écriture, et je me demandais si... Parce que... On va le voir, on va parler de ce roman. Je me demandais s'il y avait aussi l'envie de porter témoignage pour votre fille.
Oui et non. D'une certaine manière, je suis témoin de ma vie avec les autres, témoin du monde avec les autres. Ça, oui, je tiens à ça. Avec ma fille, elle a 28 ans, jeune architecte à Zurich. Elle a lu mes bouquins. Elle m'a aidé à corriger ce livre, Le cri du barbeau. Elle m'a donné même des conseils pour ajouter certains chapitres. Je lui dédie ce livre pour plein de raisons. Pour moi, il n'y a pas d'urgence d'écrire. Peut-être qu'il y a une urgence de vivre en permanence. Et je prends beaucoup de notes chaque jour dans ma tête, sur un carnet, sur l'ordinateur. Je m'envoie tout seul des mails depuis le téléphone pour garder les traces des choses qui me touchent. Donc ça, c'est en permanence. Comme vous avez dit, bah, 13 ans, entre Les couleurs de l'hirondelle et Le cri du barbeau, bah, j'ai accumulé des milliers de notes pour encore 10, 20, peut-être 30 bouquins. Je sais que je vais pas arriver à les faire, ces 30 bouquins, mais si je fais encore 1, 2 ou peut-être 10, ça va aller.
Alors, méfiez-vous, hein, il est possible qu'on soit écouté en Suisse, et si la société de transport pour laquelle vous travaillez entend que vous prenez des notes sur vos lieux de travail pendant que vous conduisez sur votre téléphone, ça risque de vous poser problème. Ceci dit...
Mais je vous assure que je... prends pas des notes en conduisant. C'est toujours à un arrêt, le bus il est arrêté. les gens montent, descendent. C'est toujours au terminus. Non, parce qu'en plus, c'est au moins 100 francs suisses l'amende. Hein, ça peut coûter cher.
Ne me parlez pas des francs suisses. Il s'agit d'un roman. Alors ce roman, il y a une complexité. J'allais dire, j'ai écrit, moi, ce roman est compliqué, mais en fait, je vais transformer mon intervention en disant qu'il y a une complexité dans ce roman. Vous utilisez le tu en permanence et vous jonglez avec les conjugaisons, avec les lieux, avec les temporalités. Tout est mis moi, à la lecture, au même plan. C'est-à-dire que le présent, le passé, le pays de là-bas, le pays d'ici, tout est mis au même plan. Ça nous dit quoi, cette manière d'écrire le monde, en fait?
C'est ma manière personnelle, originale.
Oui.
Je sais que je suis un original dans la littérature de langue française et je suis heureux d'être chez José Corti avec cela parce qu'ils sont originaux eux aussi comme éditeurs. Et bien sûr, en revenant strictement à votre question, je jongle, comme vous avez dit, j'invente mes manières de vivre le monde. Donc tout à l'heure, avec Alexandre Seurat, on était boire un verre sur une terrasse à 10 minutes de chez vous. Et je suis ouvert au monde, lui il est ouvert au monde, nous sommes les deux écrivains. À un moment donné, une dame passait à côté de la terrasse, et c'est moi qui lui ai dit à la dame, bah, venez avec nous. Elle est venue. Et on a passé un moment ensemble, et là, chacun de nous a raconté plein d'histoires du passé, du présent et même du futur. Même, on a conclu qu'on va se revoir les trois avec la dame pour parler aux étudiants d'Angers, d'un lycée où elle travaille. Et si je dois vous reproduire ce que j'ai vécu avec eux deux, mes histoires et l'histoire de chacun, on peut faire un bouquin. Parce que on a voyagé les trois dans le temps, dans les sujets, dans les temps, les conjugaisons, dans le tu, il, elle, eux, nous, vous. Donc c'est ma manière, d'une certaine manière naturelle, d'écrire, de copier un peu ma relation verbale, et pas seulement verbal avec le monde, parce que j'ai aussi une sorte d'écriture filmique. Je m'intéresse aux détails. Je peux pas oublier les détails parce que je les saisis, je les vis. Mmh. Alors je les remets dans le texte.
Mmh. Alors, on va... Autre aspect, à mes yeux, il y a... vous avez quelque chose par rapport aux mots. Et là, je vais citer quelques extraits. Les mots de la Bible n'appartiennent pas à la Bible. Les mots n'appartenaient pas à ceux de ta génération. Les mots n'appartiennent pas aux jeunes. Tu viens d'avoir 30 ans, ta vie est un mot qui n'a pas encore parlé. Tu es en visite chez ton grand-père, tu as le pays d'ici et le pays de là-bas. Tu as deux pays d'ici et deux pays de là-bas. Les mots n'appartiennent pas au pays. Les mots n'appartiennent pas aux morts. Les mots n'appartiennent pas aux passants. Les mots n'appartiennent pas à ceux qui les disent ou qui les pensent. Aller d'un mot à l'autre, c'est une traversée pleine de miracles. Chaque mot est un être. Il faut que tu t'en souviennes, mon petit-fils. Ça, c'est dans la bouche de du grand-père. C'est quoi ce rapport aux mots? C'est quoi qu'est-ce qui se passe autour des mots avec vous?
Pour reprendre depuis le début, dans la symphonie du loup, les mots devraient pas exister. En parallèle avec les histoires racontées de la vie, les mots devraient pas exister. Dans les couleurs de l'hirondelle, les mots sont à la récré comme les enfants à la récré, comme les enfants que nous avons été, que nous étions. Donc les mots font un peu les fous, vont chercher une liberté, se sentent libres à la récré. Et dans le cri du barbeau, le passage que vous avez cité, merci beaucoup, je reviens avec un regard sur les mots. Les mots n'appartiennent pas. Les mots, comme je les vis moi, ils sont complètement, complètement libres. Ils n'appartiennent pas aux individus vivants ou décédés. Ils n'appartiennent pas à un corps de métier. Les mots qui ont créé ou qui nous ont laissé créer avec eux une multitude de types de langage humain dans la même langue, avec le même dictionnaire, de langage humain très spécialisé dans la même langue, tellement spécialisés qu'on s'entend pas entre nous. Si on prend le langage des avocats et le langage des philosophes et les langages administratifs ou les langages des policiers ou les langages d'ailleurs, bah on s'éloigne les uns des autres en spécialisant les langages. Et moi je me dis, mais alors est-ce que le mot pain il appartient au boulanger? Mais non, il appartient à tout le monde. Il appartient à lui-même, aux morts et aux vivants et à personne. Est-ce que le mot feu rouge appartient à la radio parce que vous avez des feux rouges ici pour maîtriser un peu le langage, ou il appartient peut-être à Georges Simenon parce qu'il a un livre qui s'appelle Feux rouges en parlant des feux rouges des stops des bagnoles américaines? Est-ce que les feux rouges m'appartiennent à moi parce que je suis chauffeur de bus à Lausanne, ou est-ce que les feux rouges appartiennent aux sémaphores, aux feux rouges, parce qu'en Suisse ils disent le feu rouge, les feux, au feu, les feux rouges, est-ce que c'est lié au feu, à la chaleur? Donc je veux libérer le mot feu, le mot rouge et le sentang feu rouge. Les feux rouges sont libres, appartiennent à personne, ad aeternam.
Alors, tout à l'heure, juste il y a quelques instants, vous venez de prendre un exemple, et moi ça m'intéresse cet exemple, enfin cet exemple, vous avez cité une anecdote, vous êtes à la terrasse d'un café, une femme passe, vous l'invitez à boire, et vous discutez. Et puis, dans ce roman, votre narrateur, alors moi j'ai toujours lu ce livre avec un narrateur qui n'est pas forcément vous. C'est pour ça que moi je parle d'un narrateur.
Il y a plusieurs narrateurs.
Et il y a plusieurs narrateurs. En plus, d'où la complication, parce qu'il y a plusieurs narrateurs, et avant qu'on ait compris qu'on a changé de narrateur, c'est un petit peu compliqué. Mais votre narrateur a des comportements d'une bienveillance folle. D'abord, il achète toutes les pierres précieuses, en fait des cailloux de pacotille, à un groupe d'enfants. Il accueille chez lui un compatriote lâché par son employeur. Il emmène manger tout un groupe d'enfants des rues, alors je sais pas combien il y en a, mais il les emmène manger. Alors ça semble complètement utopique, mais l'anecdote que vous racontez à l'instant montre que ce n'est pas utopique. C'est quoi? C'est de la générosité, de la bienveillance, de l'attention aux
autres? C'est ma vie, c'est simplement ma vie.
C'est votre vie.
Je vis comme ça.
Oui, allez-y.
Je vis comme ça et je reproduis ma vie comme je peux.
Oui.
Je reproduis ma vie, mais surtout je reproduis les autres que je rencontre et avec lesquels j'ai des échanges. J'adore le monde, j'adore échanger avec les gens. Et justement, ma fille, je lui dédie mon livre, elle a vécu une partie de ce livre avec moi parce que c'est exactement comme je décris dans le livre que j'ai vécu avec elle. J'ai accueilli un mendiant roumain chez moi pour quelques jours, pour qu'il se lave, pour qu'il soit un peu mieux et tout, pour comprendre son histoire. Et comme je vous ai dit, en étant divorcé, garde partagée, ma fille elle était avec moi. Et j'ai appelé ma fille en lui disant, est-ce que tu es d'accord? Et elle m'a dit, papa, pas de problème, tu fais ce que tu veux, moi je respecte ton choix. Donc c'est simplement ma vie amenée vers vous, et par rapport au narrateur, il y a plusieurs narrateurs, mais en même temps, je crois que même vous, le lecteur, vous êtes un narrateur. Ce tu, en lisant la vie d'un autre, ça peut devenir le lecteur. Tu es aussi généreux, tu as aussi fait des choses dans ta vie qui ont montré aux autres ta relation au monde, ta générosité, ton amour pour les autres, tes sacrifices plus ou moins grands, plus ou moins forts. Tu es aussi dans le livre.
Mais je m'y suis senti. Je m'y suis
merci
senti
beaucoup,
parce que
merci beaucoup.
Ce tu, des fois je le prends comme une interpellation, comme une adresse à moi. C'est-à-dire que tout d'un coup je me dis, mais c'est à moi qu'on parle, et puis en fait, c'est d'autres interlocuteurs.
Ça déclenche chez le lecteur ce qu'il a vécu, ce qu'il a fait, et ça peut l'accuser ou pas.
Oui.
ça peut lui faire plaisir ou ça peut l'agresser.
Oui. On va faire une pause musicale.
Le ciel déborde un peu et moi je ris. Il en a fallu du temps à cette noyer les soucis, en se retrouvant.
Les pages sur Radio G, c'était John O'John qui chantait Décembre. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec Marius Daniel Popescu autour de son roman Le Cri du Barbeau. On essaye de parcourir, mais c'est compliqué de parcourir la totalité de ce roman. Votre narrateur, alors on a parlé tout à l'heure, on a entendu dans la première partie votre rapport aux autres, votre attention aux autres, votre générosité, mais il y a aussi le narrateur est vertueux. Il n'est pas opportuniste. À l'époque du Parti Unique, lorsqu'il occupe le poste de chargé d'accueil dans une cité universitaire ouverte aux touristes, il ne cède ni aux tentatives de corruption, encore moins quand elles viennent du Parti Unique. Est-ce que ce narrateur, c'est un résistant ?
Oui. C'est un résistant, mais en même temps, c'est un normal.
La normalité, vous allez un peu vite, là.
Non, mais attention. La normalité, en Roumanie, de la dictature, avait perdu la normalité à cause des manières imposées par le Parti Unique. N'oublions pas que ça a commencé avec des exécutions, des goulags, avec plein d'arbitraires, et ça a fini en crise alimentaire, ça a fini dans une pauvreté énorme, et avec une petite guerre coup d'État, quelques, quand même centaines de morts, 1000 et quelques morts. Donc, pour bien se comprendre, la normalité pour moi, c'est d'être honnête, respectueux, correct, travailleur, est ouvert au monde, parce que le monde est grand, pas seulement ton village, pas seulement ton canton ou ton pays, qu'il soit grand ou petit. Donc, j'étais normal, je suis resté normal, et plus on a moins de normalité, plus les normaux deviennent résistants.
Alors, dans cette séquence, ça va jusqu'à... Alors, cette séquence, le narrateur est un jeune étudiant, et comme on est dans le pays du parti unique, il y a des obligations à faire, et là, il a une mission pendant les vacances de tenir l'accueil d'une résidence étudiante pour accueillir des touristes.
C'était un travail alimentaire pour les étudiants.
Travail alimentaire,
ouais.
Pour les étudiants. Et donc, et il commet l'erreur dramatique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent aller se coucher, il y a un bus qui arrive, des jeunes qui veulent aller se coucher, mais toutes les chambres sont prises. Et comme ce narrateur est très vertueux, ben, il dit non, les chambres sont prises, j'ai pas voulu les donner. Mais finalement, il les donne quand même, et le groupe arrive après, donc il se retrouve à négocier avec le deuxième groupe pour dire bon, ben, dormez dans le bus parce qu'il y en a qui ont pris votre chambre pendant un moment. Donc voilà, c'est pour ça que je parle de vertu, parce que chaque fois que vous abordez, enfin que ce narrateur, aborde une situation, il le fait dans une grande humanité. C'est-à-dire, je parlais de ce groupe de gamins qui vend des petits cailloux qui présentent comme des pierres précieuses. Lui, il a la générosité de dire, c'est des bijoux et je vous les achète. Et je vous les achète tous, ces bijoux-là. Et je trouve ça vraiment assez... au-delà de la vertu, il y a quelque chose qui est de l'ordre du merveilleux dans ce que vous racontez. Je reviens à la notion de résistance et à l'expression « je vous baise la main ». Ça aussi, c'est de la résistance. Racontez ce que c'est que « je vous baise la main ».
Oui, justement, c'est déjà un petit chapitre dans le livre. Chez nous, chez les Roumains, on apprend depuis tout petit dire « sărut mâna », qui, mot à mot, ça veut dire « je vous baise la main ». Mais surtout, c'est dans la famille... dire à la mère, à la grand-mère, même au grand-père, même aux hommes, qu'on respecte les personnes plus âgées, le frère de la mère, l'oncle et tout. Quand on est petit, on dit « je vous baise la main ». Et en parallèle, on voit, moi j'ai vécu, je voyais comment on faisait le baisement à la française, à la roumaine, mais on a cette histoire unique, on le dit. On le dit, on arrive chez les parents, je vous baise la main les parents. C'est que les paroles, on leur baise pas la main réellement, mais on s'embrasse, on se prend dans les bras en leur disant, sărut mâna, je vous baise la main, je vous baise les... On dit aussi au pluriel, sărut mâinile, je vous baise les mains. Donc c'est... un apprentissage, un respect dans le salut, dans l'accueil, surtout dans la famille. Et après, ça s'est exporté dans la vie de chaque jour. Vous pouvez aller au restaurant, vous voyez la serveuse, seulement aux femmes cette fois-ci, sărut mâna, doamnă, je vous baise la main, madame. À un guichet, il y a une dame, sărut mâna, doamnă. Bon, je vous baise la main, madame, à n'importe quel guichet au monde. Donc, c'est une caractéristique roumaine, à la fois dans la famille et à la fois dans toute la société.
Mais au moment du parti unique, c'était une formule.
C'était une formule, justement, qui avait perdu de sa normalité. Et qui était très biaisé aussi, parce que tout était à la fois avec du sens du normal et en même temps de l'absurde, de rien du tout. Et bien sûr, dans le chapitre, je raconte comment ce baisement, cette fois-ci le baisement qu'on voit sur les photos, parce que je cite des baisements, comment des hommes, des politiciens, hommes et femmes, se font le baisement par des gens en public. Parfois, il y a même des gens à genoux, s'agenouillent pour faire le baisement des politiques. Et ça, c'est plus le normal. C'est plus la famille, le respect de la famille. C'est trop, c'est absurde, c'est bizarre, c'est atroce. Parce que... la Roumanie a réussi aussi à détruire des choses, pas seulement à créer le régime qu'on a vécu, le parti unique, et aussi les régimes qui les ont suivis, parce que c'est surtout ceux qui avaient le pouvoir dans le temps qui ont suivi et qui ont préparé le pouvoir d'après, donc un peu à leur manière politique de penser, à leur manière un peu pas du tout humaniste et généreuse.
Mmh. Alors, on est obligé de parler... On est obligé de parler de l'expression, enfin des deux expressions que vous utilisez dans le roman, le pays d'ici et le pays de là-bas. Alors, le pays d'ici et le pays de là-bas, ils changent tout le temps. Le pays d'ici, ça peut être en Suisse, mais ça peut être en Roumanie. Et le pays de là-bas, ça peut être en Roumanie, et ça peut être en Suisse.
Ça peut être en France aussi, le pays d'ici ou le pays de là-bas. Oui. Maintenant, mon pays d'ici, c'est la France. Je suis avec vous en France, à Angers.
Oui.
Et en plus, ça peut aller même plus loin.
Oui.
Le pays d'ici, ça peut être Angers, seulement Angers. Le pays d'ici, ça peut être Alexandre. Et dans les couleurs de l'hirondelle, je parle un peu de ça. Chaque être humain, c'est un pays.
Oui.
Chaque petit bled, c'est un pays. Chaque petite ville, c'est un pays. Chaque capitale... d'arrondissement, c'est un pays. Chaque pays est un pays. Tout est pays. Et tout n'est pas pays.
Mmh. Mais c'est très troublant parce que quand on voit surgir l'expression, on se dit, bon, c'est clair, j'ai un narrateur qui est en Suisse, il va aller en Roumanie, ça je comprends. Le pays d'ici, je comprends, le pays de là-bas. Mais dès que vous commencez à basculer, c'est-à-dire dès que... Quand le narrateur est en Roumanie, il utilise le pays d'ici pour la Roumanie parce qu'il est en Roumanie. Là, on commence à être perdu, objectivement perdu. Il faut un temps d'adaptation pour comprendre qu'effectivement, le pays d'ici, c'est le pays du moment. C'est le pays du moment où on est là, et on est donc dans le pays d'ici. Et ça, ça nécessite un, comment dire, pas d'accepter quelque chose, mais d'entrer dans votre écriture... de se laisser imprégner par cette écriture et de se laisser habiter par elle, tout simplement.
Bah oui, j'oblige un peu le lecteur de s'adapter à moi. j'écris pas comme d'autres, d'une certaine manière. Et vous avez raison, c'est une remarque extraordinaire. Le pays d'ici, c'est toujours le pays du moment. Et j'ai des chapitres dans mes livres où le pays d'ici, qui peut devenir aussi le pays de là-bas, c'est la France. Je m'inspire de ma vie en France aussi. Mmh. Ça veut pas dire que si je viens pour présenter mes livres en France, je vis pas en France. Mais non, je vis aussi intensément qu'ailleurs. Mmh. Et j'ai des chapitres vécus en France avec le monde d'ici. Je fais exprès quand même de pas citer les noms des villes, les noms de cette multiplicité d'ici ou de là-bas.
Alors, le roman s'appelle Le cri du barbeau. Moi, j'aimerais que vous nous lisiez un passage. Alors, vous m'avez dit qu'est-ce que vous voulez que je lise, et j'ai dit on va lire Le cri du barbeau. Voilà.
Une partie. Oui, voilà.
Mais celle qui dit pourquoi ce roman s'appelle Le cri du barbeau.
Vers les rochers, il n'arrive pas à attraper à main nue le plus gros poisson de la rivière. Ils prennent conscience de la valeur du trophée qui leur file entre les doigts, qui leur passe sous le ventre. Ils commencent à s'engueuler. Ton barbeau à toi, tu ne savais pas comment le tuer. Tu le tenais fermement entre les doigts de tes mains. Il continuait à se débattre et tu as eu l'idée de l'enterrer dans le sable pour qu'il meure comme ça. L'eau t'arrive aux chevilles. Tu es proche de la rive opposée au rocher. Depuis un quart d'heure, tu t'es retiré de la cohue à laquelle tu ne participais pas activement. Il reste une quinzaine d'hommes qui chassent le barbeau. Tu les vois plonger dans l'eau profonde pour faire ressortir le poisson dans l'eau basse. Tu ne sais pas quoi faire. Tu penses à ta grand-mère qui t'attend à la maison ou qui est partie te chercher dans les familles de tes copains de baignade. Tu as 10 ans et tu te dis que tu vas rester jusqu'à la tombée de la nuit. Tu veux attendre le dénouement. L'un des hommes avait compris qu'à main nue, il n'avait aucune chance d'attraper le barbeau. devenu une proie facile à cause de la sécheresse. Cet homme s'était éclipsé une demi-heure, il était allé chez lui et maintenant il revenait à la chasse muni d'une fourche à quatre pics. Il est passé à côté de toi et il est entré dans l'eau en avertissant les autres. Ce barbeau va être le mien. Ils l'ont laissé faire et vous l'avez regardé pendant trois quarts d'heure. Sonder l'eau avec sa fourche, il faisait des vagues avec ses jambes et il tapait la surface de l'eau avec une main. Il attendait que le barbeau sorte et le gros poisson est sorti. Tu as eu l'impression qu'il allait vers toi. Tu l'as vu nager de plus en plus lentement vers le bord de la rivière. L'homme à la fourche le suivait et, à un moment donné, il a levé son outil et il a frappé. Tu as vu du sang qui coulait et le gros poisson se débattre dans les pics. Tu as vu comment le pêcheur a levé avec peine sa fourche chargée de la proie. Puis il est venu vers toi, il t'a contourné, il a posé son barbeau sur la rive. Vous étiez en cercle autour d'eux. La fourche était à côté. Il tenait son trophée avec les deux mains et le barbeau était aussi grand que toi et il criait en mourant. Tu te souvenais que ton barbeau à toi criait lui aussi avant que tu le mettes dans le sable.
Merci. Merci pour cette lecture. Je voulais qu'on lise ce passage parce que c'est un passage qui est complètement fou. Cette pêche, il y a plusieurs séquences de pêche. La manière dont on fait son nid, je crois que c'est ça l'expression, hein, fait son nid pour...
On fait un œil dans les roseaux.
Voilà, on fait un œil dans les roseaux. Et là, le narrateur prend l'expérience auprès des vieilles femmes qui viennent faire un œil et qui viennent pêcher. Une histoire d'enfance là qui est racontée complètement et je trouve ça assez magnifique. On va prendre juste quelques mots avant la deuxième pause musicale, quelques mots pour un de vos autres travaux en plus de chauffeur de bus et d'écrivain. Vous êtes aussi responsable d'une revue qui s'appelle la revue Le Percy. Alors c'est quoi Le Percy? Alors le persil comme l'herbe, hein, le persil comme on sert pour la cuisine, hein, c'est ça le persil,
oui,
hein,
oui,
vraiment
oui,
le persil.
Hein, oui,
ouais.
Oui.
C'est quoi cette revue?
Donc c'est une revue littéraire, c'est moi le patron, j'ai créé cette revue il y a 22 ans. Elle est destinée surtout pour publier des textes littéraires et faire des numéros avec les Suisses francophones, les Suisses romands, sur les Suisses francophones, les Suisses romands. C'est un journal, revue littéraire de grand format. Vous avez un numéro dans les mains.
C'est un
format
A3.
Mmh. Le minimum de pages, donc un numéro simple, c'est 16 pages à A3. Le plus grand numéro, c'était 96 pages. Un numéro qu'on a fait pour la fête de 20 ans d'anniversaire de ce journal revue. Donc c'est de la littérature. Où vous pouvez avoir des numéros de vraiment très élitistes d'une certaine manière, qui nous prennent des années de recherche, de travail, et des numéros de textes inédits qui montrent tous les types de textes possibles et impossible des écrivains et poètes suisses romands, c'est-à-dire je publie sans jugement de valeur n'importe qui pour montrer qu'il y a de la poésie, qu'il y a de la littérature chez les débutants, chez les connus, chez les pas du tout connus. J'ai raconté à Alexandre tout à l'heure, dernièrement, c'est un collègue de bus, et nous sommes 1000 chauffeurs, femmes et hommes, à Lausanne. Un collègue me dit, mais j'écris moi aussi des poèmes. Envoie-moi quelques-uns. Il m'a envoyé deux, pas mal, je le publie dans le prochain numéro. Bien sûr, je collabore avec les universitaires, avec les journalistes. Je fais aussi des ateliers d'écriture. Parfois, on fait des numéros du persil avec les textes qui ont été écrits pendant l'atelier d'écriture dans les lycées, à l'université. J'ai fait une fois avec la mairie de Lausanne, avec leur service culturel, un atelier d'écriture qui a donné un numéro. J'ai commencé ce journal parce que Je croyais que je peux le faire hebdomadaire et que je sois le seul journaliste. Et après 4 numéros, donc à moi, je me suis dit, ah, c'est impossible, parce que justement, les 4 numéros, c'était que moi qui écrivais.
Ah oui.
16 pages à 3, que du texte.
Oui.
C'est un journal sans publicité.
Mm-hmm.
Voilà. Par contre, on a besoin d'aide financière et on a une association des amis du journal Le Persil qui cherche des fonds aux sponsors en Suisse. Et il y a des privés et la culture de Lausanne, de la ville et du canton de Vaud, où Lausanne est la capitale, qui nous aide. C'est une lutte d'obtenir les fonds permanents. Parfois, je m'engueule même avec certains responsables parce que ils nous donnent 1000 euros une fois, après c'est 200. Ils nous donnent 4000 une fois, après c'est 600. Donc c'est bizarre.
Rassurez-vous, on connaît parfaitement ça. je peux vous dire que c'est universel. Moi, je tenais à parler de cette revue parce que d'abord, elle est impressionnante. Elle me fait penser, pour d'autres raisons, à une revue qu'on a ici en pays de la Loire qui s'appelle Dissonance, qui est un peu dans le même esprit de publier des textes. Alors c'est certainement un autre projet, d'autres objectifs, mais ça y fait penser un petit peu. Et moi, si j'en parle, alors d'abord, pour les gens qui seraient intéressés, il suffit d'aller sur le site Le Persil. Il suffit de taper Le Persil, on tombera sur le site de la revue. Hein, c'est très facile à faire. Et je voulais en parler parce que il y a un numéro qui a été consacré à 14 auteurs alémaniques, strictement inconnus de nous, pas traduit en français, et donc nous, on ne connaît pas, et qui ont l'air, je trouve, moi, pour avoir parcouru la revue, diablement intéressant. Marius, Daniel Popescu, je vous remercie d'être venu jusque chez nous. On va faire une deuxième pause musicale.
T'es comme des anges sous Imanga, sont en otage. Quand on prend les noms, rien ne trompera les ailes de plomb. Comment réparer les failles quand ils éteignent tout? Beaucoup trop de détails qui me prennent le coup. Je sais pas pourquoi je tremble encore de peur. Habitué aux histoires, habitué aux débats, c'est pas moi qui me meurs. De chez nous les morts sont loin, prends-moi dans tes bras, l'indifférence fait peur. J'suis pas légitime, j'suis pas victime, pas dictateur, mais j'suis pas leur. J'ai les canines et j'ai pas le cœur envers le crime. Ces auteurs, comment réparer les failles quand ils éteignent tout? Beaucoup trop de détails qui me prennent le coup. J'ai peur pour toi quand moi j'ai peur. Des nids sauvages, j'ai pas acteur, même. C'est comme des anges sous Imanga, sont en otage. Quand on prend les noms, rien ne trompera les ailes de plomb. Comment réparer les failles quand ils éteignent tout? Beaucoup trop de détails.
Et vous venez d'écouter Théophile qui a chanté Sweet Manga, et vous êtes bien sur Radio G à écouter Entre les pages, l'émission qui parle du monde des livres en Anjou. Quelle chance vous avez! Aujourd'hui, j'accueille Marius Daniel Popescu et Alexandre Serra, et maintenant, la parole est à Alexandre Serra. Alexandre, vous êtes déjà venu dans l'émission, on vous a entendu présenter le roman de Marius Daniel Popescu en début d'émission. À la parution de son premier roman, vous avez été tellement enthousiasmé que vous avez rédigé un très long article pour la revue Fiction. Qu'est-ce que vous aviez discerné dans ce roman qui vous semblait littérairement, important?
C'était pour un dossier qui s'intitulait Démocratie et littérature, et je mesurais que son écriture avait beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là, précisément par son expérience de deux pays très différents, qui avaient une expérience de la politique très différente, et son habileté pour lier les deux expériences de vie sans les opposer, sans en faire une sorte de caricature, sans promouvoir la démocratie libérale au détriment du régime du parti unique. Évidemment, ces livres sont une critique radicale du régime du parti unique, mais ils arrivent avec ce regard et avec cette expérience à jeter un regard extrêmement lucide sur nos démocraties, et c'est ça que j'ai tout de suite apprécié chez lui, c'est-à-dire la complexité, c'est un mot que vous avez utilisé, la finesse et la lucidité et la générosité aussi avec laquelle il est capable d'analyser des enjeux qui sont les nôtres. Je voudrais juste citer quelque chose que j'ai découvert au moment où j'ai écrit cet article. Donc j'avais adoré ce livre, et m'intéressant à Marius Daniel Popescu, que je connaissais pas du tout, et d'ailleurs je l'ai pas contacté avant d'écrire l'article, je suis tombé sur une vidéo qu'il a réalisée au moment d'une campagne de l'extrême droite suisse pour s'opposer aux picassiettes roumains et bulgares qui déferlaient sur la Suisse. Et il aurait pu faire une intervention extrêmement littérale, dire vous rendez compte, enfin se scandaliser, vous voyez, se scandaliser de ce discours de l'extrême droite. Et au lieu de faire ça, il s'est servi des outils qu'avait utilisé la campagne d'extrême droite. La campagne, il la montre au début de la vidéo, c'est on voit des corbeaux qui picorent le sol suisse. Là, ça dit quelque chose de nos démocraties, et je pense que 20 ans plus tard, ça nous parle de la France aussi. Aujourd'hui, je veux dire, un an avant la présidentielle. Et donc, il apparaît juste après avoir montré cette affiche, grimé tout en noir, les cheveux ébouriffés. En fait, c'est devenu un corbeau. Et il parle avec son accent inimitable en disant « Les corbeaux roumains s'adressent au pop-corn suisse !» Et je me disais « Mais ce type est dingue !» Je le connais depuis deux jours personnellement maintenant, et il est effectivement en partie complètement dingue, mais en fait, ça fait partie de son génie, c'est-à-dire c'est un génie littéraire. C'était une vidéo esthétique qui n'esthétisait pas la politique, qui se servait de la littérature ou des outils de l'imaginaire pour s'installer dans un paysage qui est politique. Mmh. Et ça, je me suis dit, mais ça c'est politique, et en même temps c'est littéraire, c'est extraordinaire, c'est dadaïste, mais ça vient bousculer tout le discours politique, et je pense que sa littérature, elle fait ça.
Voilà. Ma fille était présente pendant la création du film.
Est-ce que le cri du corbeau n'est pas le même
du barbeau.
c'est la vague de la vidéo.
Le corbeau,
voilà comment on peut avoir la tête parasitée et comment on peut mal voter dans l'avenir. Est-ce que le cri du barbeau n'est pas le même roman que la symphonie du loup, paru il y a presque 20 ans?
Moi je retrouve toujours le même élan, en fait. Je pense qu'il n'y a pas de... Vous m'avez demandé tout à l'heure de présenter le cri du barbeau, et c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire, dès que je parle du cri du barbeau, moi j'ai envie de présenter toute l'œuvre. Mm-hmm. J'ai lu un de ses livres de poèmes depuis, et en fait, j'arrive toujours lesté de toutes ses lectures ensemble, et je pense que c'est comme ça qu'il les compose, chaque livre. chaque récit de Marius Daniel Popescu commence par un deuil, et ce deuil est une sorte de clé pour ouvrir un imaginaire, une sorte de boîte à images mentales qui font cohabiter l'ici, l'ailleurs, enfin tout ce que vous avez dit dans les deux premières parties de l'émission. Et moi, c'est le bonheur de retrouver cet élan qui m'a fait lui écrire. Alors, je voudrais juste raconter du coup comment ça s'est fait. Je lui ai écrit en novembre. Je lui avais envoyé mon article, enfin je l'avais envoyé à Corti, j'avais eu un petit échange mail, donc depuis cette époque-là j'avais le contact de Marius. Je lui avais envoyé mes livres, mais je me suis aperçu qu'il les avait pas reçus. Donc finalement il les a depuis deux jours. Mais je lui écris, en fait c'est rare qu'un livre me donne envie de rencontrer un auteur. J'ai lu beaucoup d'auteurs. Pour ma thèse, j'ai travaillé sur Céline. J'ai jamais eu envie de rencontrer Céline, en dehors du fait que c'était pas possible.
Enfin, je vous le dis, même les auteurs, c'est pas possible.
Même les auteurs contemporains, j'ai pas toujours envie de les rencontrer. Et là, je lui ai dit, ce livre m'a donné envie de vous rencontrer. Et il m'a pas répondu tout de suite. Il a mis deux mois, mais il m'a dit, j'arrive. Je suis disponible dans 15 jours. Donc ça se tombait le 31 janvier. Je me suis dit, il est incroyable. Il me prend au mot. C'est toujours. Il est à la fois au propre et au figuré, Popescu. Donc j'étais pas disponible le 31 janvier, mais je lui ai dit on va faire les choses bien, vous allez venir un peu plus tard, mais j'ai envie de partager cet enthousiasme. Et donc en fait, vous avez parlé de la générosité tout à l'heure, mais la générosité et l'engagement qu'il met dans ses livres, je trouve qu'elle est contagieuse, c'est-à-dire qu'on a envie de s'engager pour que la rencontre se poursuive au-delà du livre. Moi, c'est ce que ça me fait ressentir.
Alors vous êtes enseignant en littérature à l'université d'Angers, confronter vos élèves à la littérature contemporaine, donc à Marius Daniel Popescu, est-ce que c'est important pour vous d'être à cet endroit-là pour vos élèves?
Oui, moi j'ai toujours été, c'est peut-être ce qu'on partage aussi, dans une idée de transmission. C'est important dans mes livres et c'est important dans ma vie, dans mon métier. Alors, moi, j'enseigne pas vraiment la littérature parce que je suis à l'IUT, donc j'ai des étudiants qui apprennent la gestion, et donc je suis enseignant d'expression communication. Donc la littérature, c'est un peu le bagage clandestin que j'introduis dans mes cours. Mais les étudiants, au départ, ils sont pas trop demandeurs de cours de français. c'était pas leur matière forte au lycée, si vous voulez. Oui, c'est important. Et d'ailleurs, on a organisé une conférence avec Marius, avec les étudiants. Et ma question, c'était, mais comment réussir à leur faire passer l'importance de ces textes à mes yeux, alors qu'ils sont pas littéraires? Alors Marius m'a dit, mais personne n'est littéraire, tout le monde est littéraire, tout est littérature. Et j'ai dit, oui, d'accord, tout est littérature, mais moi, comment je fais concrètement après avec eux? Et en fait, j'ai compris, c'est-à-dire que l'écriture de Marius, c'est une écriture de la vie, et donc il suffisait de le faire parler de sa vie pour que ça parle. Et notamment dans la symphonie du... C'est par ça que j'ai commencé. Dans la symphonie du loup, il y a un passage incroyable où le narrateur, enfin celui à qui on dit tu, décide de rejoindre sa petite amie en train. Il a un billet de train, il a réservé son train, mais le train, sous le règne du Parti Unique, il est bondé, il arrive, sa place est inaccessible, le wagon est inaccessible, les portes sont fermées, et donc il prend une décision folle. Marius m'a confirmé qu'il l'a fait réellement. Il s'accroche à la portière et il décide de faire 150 km. À 150 km/h, accroché à une portière de train. Donc, en fait, on est dans James Bond, mais et puis Marius, quand je lui ai dit ça, m'a dit mais James Bond n'a jamais fait ça. et Marius le fait et il nous décrit chaque geste, chaque détail, comment il fait pour rester collé parce que le courant d'air risque de le déporter. Il voit des croix sur le bord et il est conscient de la mort qui est là juste à portée de main, mais il arrive à destination. Et ça, en fait, une fois qu'on fait passer ça, ça emporte tout. C'est-à-dire que les étudiants, ils suivent, quoi.
Oui. Eh ben, écoutez, Alexandre Sarajon, merci d'être venu, d'avoir accompagné Marius Daniel Popescu. L'émission arrive à son terme. C'est parce que c'est bientôt l'heure d'une autre émission. C'est le magazine Topette qui va enchaîner. Donc, il faut savoir rendre les clés à l'heure. Comme il se doit, quelques dates à noter dans votre agenda. Vous n'oublierez pas de vous rendre au festival de nos amis de l'émission Imaginaire, le festival Imaginaire qui a lieu le week-end prochain, les 23 et 24 mai, dans les salons Kurnowski à Angers. Un peu plus loin dans le temps, c'est le retour du festival Club Crayon, les 6 et 7 juin, dans l'ancienne galerie In Arte Veritas, rue des Lys à Angers. Ce festival n'a pas eu lieu l'an dernier, il a eu lieu l'année d'avant, il a lieu maintenant. Là, on est très loin de l'édition mainstream. Hein. Là, c'est pour les curieux et je recommande aux curieux de se précipiter pendant ces deux jours parce qu'il y aura de belles découvertes à faire. Les autrices et les auteurs invités dans l'émission travaillent. Frédéric Germano, qui était dans le studio il y a deux semaines, publie La 12e fée aux éditions La Clé à Molette et sera à la librairie L'Étincelle le 28 mai à la bibliothèque de Rive-de-Loire en Anjou. Le 29 mai, Valentin Dedon, footballeur impénitent, vient de publier Cantona, une butographie aux éditions Robert Laffont. Rien que le titre est savoureux. Et je peux vous dire que j'ai commencé à feuilleter ce bouquin et à le lire, et c'est jouissif au possible. La vie de Cantona, quand même, mais simplement vu au travers des buts qu'il a marqués à Manchester United. Il organise une rencontre demain, le 21 mai, à 18h, devinez où, au clubhouse du NDC Angers Football Club. Au stade André Bertin, 11 rue Marcel Cerdan à Angers. Ça, c'est du Valentin Dedon tout craché. Au cours de l'émission, vous avez entendu John O'John qui a chanté Décembre, un titre bien de saison, et Théophile qui a chanté Swimanga. Allez chercher Swimanga sur un dictionnaire et vous verrez ce que c'est. Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les Pages, sur le site de Radio G à la date de l'émission. Le prochain rendez-vous, eh bien, le prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 3 juin à 17h avec une rencontre, et vraiment je m'en réjouis d'avance, avec Luc Brunschvicg. C'est un magnifique scénariste de BD. Le 21 mai, donc demain, sort le volume 7 de sa série des frères Rubinstein avec pour titre « Pour Clara ». Cette épopée des frères Rubinstein est de plus en plus impressionnante. Ce 7e volume est complètement fou. Et là, Luc Brunschvicg, sa série fait 490 pages de BD, c'est vous dire. Dans quelques instants, eh ben, ce sera le journal de 18h de RFI. Un grand merci à toi, Bruno, pour avoir assuré la technique aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée. Et maintenant...
500 meters, go straight, and then go straight.
Générique.
C'est tout.